Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Blondel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour Culture Média. De retour à son horaire habituel, 9h, 11h. Au menu, vous le savez, médias et culture au sens large, tous les médias, toutes les formes de culture, notamment de la cuisine facile à emporter. Bah oui, il n'y a pas de resto. Il y aura le journal des médias de Cyril Lacarrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et à propos d'Hélène, le retour de son portrait inattendu. Depuis hier, déjà, aujourd'hui, ce sera avec Cadmerade. Nous sommes ensemble pour 2 heures, donc, en direct. Et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur Europe1.fr. Sur Europe1.fr, il y a également les images. Notre infomédia, l'alliance, si j'ose dire, de la carpe et du lapin, ou plutôt une association entre la BNF, la prestigieuse Bibliothèque Nationale de France, et des youtubeurs. On se demande qui a été le plus surpris par l'autre. Des invités ensuite, l'humoriste Nawel Manadi pour Rendez-vous en Terre Inconnue, l'émission culte de France 2 qui revient ce soir. Ils sont partis en Mongolie et je peux juste vous dire, ça caille. Enfin, le romancier français le plus lu depuis 10 ans et le plus lu pendant le confinement, c'est ce qu'a montré une étude, Guillaume Musso, pour son nouveau roman, peut-être le plus personnel, dans lequel il affronte son double. Et je peux vous dire, c'est chaud. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Blondel, bonjour à tous.
Et bonjour Cyril Lacarrière. Et
bonjour Philippe Blondel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Ce matin, je vous parle de SFR Presse qui est en vente, de la reprise pour Plus belle la vie, de David Pujadas, parti à la rencontre du professeur Raoult, et d'un nouveau court-métrage de Pixar qui pourrait lui valoir quelques problèmes.
Mais on débute, comme c'est la tradition, par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
Le duo Cadmerade, Franck Dubosc l'emporte. 3 900 000 personnes ont regardé leur film Bis sur TF1. Bruce Willis et Morgan Freeman doivent se contenter de la deuxième place avec le film Red. Un peu plus de 3 millions et demi de téléspectateurs étaient devant M6 hier soir. Enfin, la série Major Crime sur France 2 se classe en troisième position. Les deux épisodes ont été regardés par près de 2 900 000 téléspectateurs. Enfin, hier, c'était le retour de Télématin. L'émission matinale d'Eurofrance 2 a repris sa place sur la grille après une période de confinement. Laurent Binalas et son équipe ont retrouvé leur moyenne habituelle avec 780 000 téléspectateurs.
Et Cadmerade Bis, il sera avec nous tout à l'heure en fin d'émission.
Culture Média.
Cyril, on commence donc ce journal des médias par Altice qui est en passe de se séparer de son kiosque de presse en ligne.
En période de solde, on dirait tout doit disparaître et c'est bien ce qui se profile du côté d'Altice. On a parlé la semaine dernière du plan social que lance le groupe de Patrick Drahi qui par ailleurs se désengage d'une large partie de ses activités dans les médias. Altice est le propriétaire notamment de BFM TV. Dans le Figaro, ce matin, on apprend que c'est au tour de SFR Presse d'être sur le point de quitter le navire et c'est une autre plateforme de presse en ligne, Caféine, qui devrait l'acquérir contre 5 millions d'euros. On a déjà parlé de Caféine à ce micro, c'est un des leaders du marché français du secteur. Si l'opération aboutissait, Caféine devrait atteindre le cap des 2 millions d'abonnés, selon le Figaro. Il y aurait aujourd'hui en France 9 millions de personnes abonnées à des offres numériques de presse.
Et attention là, lancement, la vie va enfin pouvoir redevenir plus belle dans le sud de la France.
Impressionnant, n'est-ce pas?
Ouais. Écrit par, fait... merci pour ce texte.
Ah mais je vous en prie Philippe, hein, quand je peux vous faire des petits cadeaux comme ça. Ça faisait donc 70 jours que les tournages de Plus belle la vie avaient été interrompus. Ils reprennent aujourd'hui. Une très bonne nouvelle pour France 2 qui est passée en mode rediffusion depuis le 4 mai. Reste à savoir comment le feuilleton va, lui, aborder la crise sanitaire. On le sait, hein, Plus belle la vie aime coller au plus près de l'actualité. Avant son arrêt, la série l'avait même d'ailleurs un peu devancée avec l'apparition d'un virus inconnu qui avait bouleversé la vie des protagonistes. Alors si les tournages du feuilleton reprennent ce matin, on ne sait pas encore quand les épisodes inédits reviendront à l'antenne. Peut-être en septembre, disait il y a quelques semaines Takis Candilis, le patron des programmes de France Télévisions.
Plus belle la vie sur France 3, pas sur France 2, Cyril. Oui, mais c'est pas grave. Rencontre au sommet ce soir sur LCI, David Pujadas qui reçoit le très médiatique professeur Raoult.
Il ne se passe plus une journée sans que Didier Raoult ne fasse parler de lui dans les médias. Ces derniers jours, c'est la publication d'une étude mettant en cause l'hydrochloroquine qui l'a remis au cœur des discussions. Alors après Apolline de Malherbe, il y a quelques semaines, c'est au tour de David Pujadas d'être reçu par Didier Raoult, et je dis bien reçu, car l'infectiologue ne veut pas se déplacer à Paris, et il a donc fallu que le journaliste aille jusqu'à lui, à Marseille. Cet entretien est enregistré ce matin pour une diffusion ce soir sur LCI. Nous avons joint David Pujadas avant qu'il ne parte pour Marseille. Il nous raconte comment il a préparé cet entretien avec un professeur de médecine qui n'est plus aujourd'hui seulement professeur de médecine.
Oui, il n'est plus seulement un professeur de médecine, c'est vrai, c'est devenu une personnalité publique. Même s'il s'en défend, on se prépare d'abord en ayant bien en tête qu'on n'est pas un médecin, donc que ça va pas être un débat entre médecins. On se prépare en se disant bien que, mais c'est la vérité, je ne suis ni pro ni anti-Raoult, je n'ai que de la curiosité, énormément de curiosité, beaucoup d'éclaircissements à demander, 1000 questions à lui poser depuis longtemps. C'est une technique journalistique assez classique, c'est de se faire l'avocat du diable, entre guillemets. Ensuite, il faut être prêt à tout, parce que c'est vrai qu'il est imprévisible. C'est vrai qu'il peut être disruptif, y compris dans sa situation d'interviewé, qu'il aime bien mettre en cause les médias, qu'il aime bien mettre en cause les journalistes. Mais ça, j'allais dire, ça peut rajouter du piquant à l'interview.
David Pujadas le dit, Didier Raoult ne se prive pas pour remettre en cause les médias et les journalistes. Mais selon David Pujadas, il n'y a plus rien de vraiment étonnant dans cette critique.
On entend pas mal de personnalités le dire depuis quelques temps. Cette mise en cause des médias généralistes, c'est un peu comme la mise en cause des élites d'une manière générale, comme la mise en cause du consensus médical, c'est-à-dire c'est une façon de se distinguer aussi. C'est une façon de dire, moi, je suis à part, moi, je suis quelqu'un d'autre, j'ai un autre positionnement, et je n'hésite pas à m'en prendre à tous ces moulins à vent. Voilà, il faut le prendre comme ça, je pense. Je ne sais pas si c'est une conviction profonde, peut-être, et puis elle peut être, après tout, respectable, mais en tout cas, ce n'est pas de nature à me déstabiliser.
David Pujadas et Didier Raoult se sont mis d'accord pour cet entretien avant la publication de l'étude de The Lancet, une étude que le professeur de médecine a depuis jugée foireuse. Le face-à-face Pujadas-Raoult, c'est aujourd'hui à 18h sur LCI.
Un court-métrage signé Disney pour parler de coming out.
C'est l'histoire de Greg qui s'apprête à emménager avec Manuel. Seulement voilà, les parents de Greg débarquent sans savoir que leur fils est gay. Et Greg va donc devoir trouver une bonne manière de leur dire qu'il est amoureux d'un homme. Tout ça avec l'aide de son chien. Out, c'est le nom de ce court-métrage d'animation signé Spark Shorts. C'est la filiale de court-métrage de Pixar qui appartient à Disney. Pixar, c'est à eux qu'on doit notamment la franchise des Toy Story. Alors si je vous en parle ce matin, c'est que Disney est plutôt frileux sur les questions de genre et la représentation des minorités LGBT. D'ailleurs, quand il s'y essaie, cela peut lui poser des problèmes. Le long métrage d'animation En avant, où une personnage secondaire était lesbienne, avait été censuré dans plusieurs pays et même parfois interdit. Mais on dirait que Disney est prêt à tenir bon. Greg est le premier personnage central de Disney à être homosexuel. Out, le court-métrage a été mis en ligne vendredi sur la toute nouvelle plateforme Disney+.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous dit à demain pour un nouveau journal des médias.
À suivre l'info média du jour avec la Banque Nationale de France qui collabore avec des youtubeurs pour mettre en avant son site Retro News. On en parle dans un instant dans Culture Média sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est là Philippe de l'info média du jour.
Oui, et on va parler de la BNF.
Et non pas de la Banque Nationale de France, c'est la Bibliothèque Nationale de France évidemment.
Évidemment, d'un côté Retro News, le site de presse de la prestigieuse BNF, Bibliothèque Nationale de France donc, et de l'autre 9 youtubeurs. Et ensemble, ils ont lancé une série qui s'intéresse autant à la vie sociale cachée des pingouins qu'à l'histoire de la cuisine exotique ou encore au parc d'attractions parisien. Pour en parler, nous sommes avec Étienne Manchette. Il est responsable des partenariats et des contenus à la BNF. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Pour qui ne vous connaîtrait pas, c'est quoi Retro News ? Comment vous pourriez le définir ?
Alors Retro News, c'est le site qui met à disposition l'ensemble des collections de la presse de la Bibliothèque Nationale. Et c'est à la fois un outil de recherche pour tous les gens qui aiment fouiller dans les archives. Et c'est aussi un média de vulgarisation d'histoire qui permet voilà de découvrir des petites histoires, ou des grandes histoires d'ailleurs, pour se plonger, pour s'immerger dans des moments, dans les petites séquences d'histoire qui permettent un peu de retrouver et son passé et aussi des choses un peu oubliées.
Retro News existe depuis combien de temps ?
Alors ça a été lancé en 2016 et puis là on est sur une sur une version qui est un peu nouvelle, qui a 3 ans seulement maintenant et qui fonctionne très bien. C'est notre, on est très ravis des audiences qu'il peut y avoir. Donc voilà, c'est un beau projet et voilà, ça s'enrichit au fur et à mesure. On monte en puissance gentiment.
Alors le plus impressionnant, c'est le temps justement quand on parle d'histoire. Quelle période historique couvrez-vous? C'est très très large.
Alors c'est 3 siècles et demi. Alors c'est là-dessus qu'il y a, c'est énormément d'histoire. Ça va de 1631. Donc il y a l'adoubement par la royauté de la Gazette de France, qui est de Théophras Reynaudot, jusqu'aux années 50, 1950. Donc pendant ce temps-là, il se passe énormément de choses. Il y a la Révolution française, il y a les conflits mondiaux, il y a tout le 19e siècle, qui est un siècle extrêmement riche en révolution, en innovation. Et voilà, donc il y a toute cette période-là qu'on couvre. C'est autant d'histoire, autant de modalités. Et la presse, ce grand témoin, donc c'est une collection qui est... Il y a un grand chantier de sauvegarde dessus et de numérisation et de mise à disposition. Et la presse témoigne tous les jours. Alors c'est 5, 10, 20, 30, 40, 50 canards qui tous les jours couvrent ce qui se passe et en France et dans le monde. C'est ça aussi qu'il faut avoir.
Canard qui est un mot historique, je me permets de le dire. On appelle ça un journal. Autrefois, un canard, c'était une fausse nouvelle donnée dans les journaux qui racontait beaucoup de pipeaux. Combien de titres de presse vous avez en ligne sur Retro News?
Alors là, on est à 700 titres de presse et l'objectif est, à la fin de l'année prochaine, enfin début de l'année prochaine, c'est d'être à 1500 titres. Donc c'est des volumes qui sont très importants. C'est surtout sur le nombre de pages qui.
Bien sûr.
Là, on est à 10 millions de pages. 10 millions de pages, on va arriver à quasiment 20 millions au moment où on sera complet. C'est autant de mots. De mots d'histoire qui sont racontés, donc c'est énormément de données aussi, là-dessus il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire que tout ce qui est retranscrit de par le monde passe par des mots, donc c'est des histoires, c'est des bruits, ça fait énormément de bruit, la presse, dès qu'on lit les... Alors il y a les grandes unes, là-dessus, c'est la grande histoire, on rentre dedans et on découvre les petites histoires, mais il y a aussi tout ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire la publicité, les petites annonces et tout ça, qui font aussi un ensemble, et donc quand on reprend un journal tel qu'il était à l'époque, on rentre dans un moment tel que les gens ouvraient la presse, comme vous ce matin. Voilà. Ouais. On ouvre la presse et nous, on peut le faire en plein milieu du 19e siècle ou dans les années 30. Voilà, aujourd'hui, on a un article sur le transhumanisme, vous voyez, donc c'est des sujets qui sont en débat, mais sur la robotique, par exemple, ou dans les années 30, c'est un vrai débat de société autour de l'homme peut-il devenir plus puissant.
Alors, on va en arriver aux youtubeurs. Avant, juste une petite question. Quelle est votre audience? Est-ce que vous avez perçu un effet confinement sur le nombre de vos pages consultées?
Alors tout à fait, nous, toute la bibliothèque s'est mis en marche au moment du confinement pour donner à la fois de...
Ah, j'ai peur qu'on ait perdu notre invité Étienne Manchette qui est responsable des partenariats et des contenus à la BNF. Pendant qu'on le rejoint, je voudrais qu'on fasse entendre le premier épisode de la série. Il est présenté par une youtubeuse scientifique, elle s'appelle Florence Porcel, on l'avait reçue ici il y a quelques temps, et Benjamin Briot, lui tient la chaîne YouTube d'Histoire Nota Bene, lui aussi était déjà venu dans Culture Média pour nous parler de Retro News, je vais y arriver, et le thème de leur vidéo, c'est la cuisine exotique.
Là, pendant le siège de Paris en 1870, la France est en guerre contre la Prusse, Napoléon est fait prisonnier, Paris est totalement encerclé, il y a pénurie de bouffe, plus un morceau de viande à se caler sous la dent. On a Théophile Gautier, qui est un poète, romancier et critique d'art, qui lui a trouvé de la bouffe exotique pour le coup. On ne parlait dans la ville, poussé par la famine aux caprices et aux dépravations de goût, que de mets bizarres. Côtelettes de tigre, jambon d'ours, bosses de bison, pieds d'éléphant à la poulette, filet de lama, entrecôte de chameau, rable de kangourou, civet de singe,
serpent boa à la tartare, marinade de crocodile, fricassée de phénicoptère.
Étienne Manchette, on est ravis de vous avoir retrouvé. Vous êtes responsable des partenariats et des contenus à la BNF. Comment ça s'est fait, cette histoire lancée avec 9 youtubeurs? C'était quoi l'idée de base?
Alors nous, de toute façon, sur Retro News, l'idée il est toujours de trouver des formes narratives, de travailler un peu à des histoires, comment raconter des histoires. Et chaque youtubeur là à sa spécialité. Donc nous, la presse parle des grands événements, mais aussi de littérature, de science. Il y a tout le temps quelque chose qui est transcrit dedans, ou des petites histoires. Le féminisme, voilà, ça transparaît tout le long des siècles qu'on couvre. Et l'idée, il a été de quelle forme, quel dispositif on peut trouver pour travailler avec eux. Donc ils ont travaillé à deux à chaque fois. On a travaillé avec la générale de production et un réalisateur qui s'appelle David Tabourier, à justement créer quelque chose qui soit court, Et puis qui apporte de la connaissance, qui permet de la discussion et de plonger toujours dans ces archives de manière et pédagogique et puis aussi plutôt divertissante.
Mmh. Voilà. Alors on est en radio, par définition on ne voit pas l'image, sauf la nôtre, vous allez me dire. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots à quoi ressemblent ces vidéos qui durent à peu près 3 minutes? Elles sont toutes construites de la même façon?
Alors c'est un système, ouais, tout à fait, c'est un système narratif qui est assez similaire à chaque fois. Après on a différents youtubeurs ou vidéastes qui viennent. Donc on a Patrick Bro, Axelot, voilà, Nota Bene, on a Florence Porcel et OGG aussi, etc. Donc plein de gens qui ont des spécialités. Mmh. Et à chaque fois, bah, c'est une question qui est posée, une thématique. Et ils se questionnent autour de ça, ils plongent dans les archives, ils décryptent ce qu'il peut y avoir. Donc c'est aussi bien les fausses nouvelles, comme on en parlait tout à l'heure, que des nourritures, justement, période post-coloniale, pleine colonie, qui permettent de redécouvrir un peu ces thématiques-là.
Voilà, je dois dire que c'est assez bien réalisé. Ils sont tout d'abord deux face à l'écran, et ensuite on voit des documents qui arrivent. Enfin, c'est très, très ludique et dynamique. Je l'ai dit, la série parle de gastronomie, mais également d'art et d'histoire. On va entendre un extrait d'un autre épisode. Il est consacré au vol de la Joconde avec, c'est signé Art Contemporain et OGG, deux youtubeuses.
Le lendemain, la nouvelle fut répandue dans Paris, causant une stupéfaction profonde. Oh. Mais l'hypothèse du vol rencontrait nombre de sceptiques. Mmh. Les sceptiques ont cru à une blague.
Elle est un peu pourrie, la blague.
Ouais, mais le vol aurait pu être commis, tu vois, pour dénoncer les conditions de sécurité insuffisantes autour des œuvres, mais il a rapidement fallu se rendre à l'évidence.
La Joconde a disparu du Louvre.
Et la question se pose.
Avez-vous vu la Joconde?
Pour bien comprendre l'impact que ça a eu, il faut bien analyser les mots. La plupart des journalistes utilisent le mot « vol », alors que d'autres se lâchent, mais complètement.
L'enlèvement de la Joconde.
Ouais, enlevé. C'est même plus un cadre avec de la peinture dessus. C'est Mona Lisa qu'on a enlevé.
Ouais, mais j'imagine que tout le monde s'est mis à la chercher.
Tout le monde. 60 inspecteurs sont dépêchés sur place. On a même soupçonné Picasso ou Apollinaire. Puis un jour, pouf, elle réapparaît.
Comment ça, pouf, elle réapparaît? Comme ça, au Louvre, directement? Clac.
Et pouf, ça change du langage universitaire. Ça fait plaisir, oui. Ce rafraîchissement. Comment s'est fait le choix des thèmes? Ce sont les youtubeurs qu'on choisit après avoir fouiné dans vos archives, ou est-ce que c'est vous qui leur avez proposé des thèmes, ou un mélange des deux?
Alors nous, on fait un travail collectif, hein. C'est vraiment la philosophie générale de Retro News, et donc on a discuté avec eux beaucoup sur les, selon leur spécialité, sur les thèmes qu'ils voulaient. Et puis Julie Durocher, qui travaillait avec moi, a travaillé à extraire tous les documents, à affiner un peu les recherches. Et après, il y a eu une écriture de scénario. Mais chacun a fait un peu selon ce que le cœur lui disait. Et ce que, voilà. Donc après, nous, il y a tout un travail scientifique derrière de vérification qui s'est mis en place. Mais l'idée a été, par exemple, OGG, qui travaille énormément sur le féminisme. Là, elle a choisi aussi des moments de sorcières, de femmes tueuses, voilà, qui sont des, voilà, une autre manière de parler de la féminité, entre guillemets, surtout ouais, de perception de la féminité à travers l'histoire.
D'accord.
C'est quelque chose qui voilà. Donc c'est un travail qui est collectif, c'est un peu la philosophie que nous, on a en général sur Retro News, où on affine avec les gens, on aide à la recherche, et après, Après, elle fonce.
On va parler évidemment des femmes criminelles, des parcs d'attractions parisiens, et je réalise qu'on n'a même pas parlé de la vie sociale cachée des pingouins, et comme vous dites à la BNF, pouf, on marque une pause.
La Bibliothèque Nationale de France associée à des youtubeurs pour booster sa plateforme Retro News. On continue à en parler avec notre invité dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Blondel.
Le responsable partenariat et contenu de la Bibliothèque Nationale de France, Étienne Manchette, est notre invité ce matin pour parler du site Retro News, qui collabore avec des youtubeurs pour toucher un public qui s'intéresse à l'écriture et à l'actualité, Philippe.
Oui, on a entendu des sons déjà. On va entendre l'histoire des sons de parcs d'attractions. Il y a aussi les femmes criminelles, vous en parliez. Il y a la vie sociale cachée des pingouins. Il y a des preuves de l'existence de la vie sur Mars ou pas. Comment vous avez choisi la période historique? Est-ce que vous êtes fixé des limites dans le temps, Étienne Manchette?
Non, c'était vraiment des moments. Nous, on travaille vraiment autour de ça. Donc, c'est comment rendre compte, et par la presse, on en parlait à la Joconde tout à l'heure, c'est tout un événement qui est extrêmement couvert. Les journaux, ça fait la une, ça fait des gros titres, mais ça permet de s'immerger, en fait, dans des séquences sur un futur épisode. On est sur une histoire plutôt criminelle des Apaches qu'on appelait à Paris, et une fabuleuse image d'une fabuleuse personne qui s'appelle Casque d'Or. Ouais. Là, on est sur les bordures de la société, on est vraiment sur ces prismes-là de l'histoire, et nous, qui nous intéresse énormément, et qui permet en fait de rentrer dans des moments d'histoire. Donc ça, c'est vraiment notre
Casque d'Or, c'est le film avec Signoret. À la base, elle existait, c'est ça ?
Tout à fait.
Voilà. J'ose pas dire le métier qu'elle faisait, parce que c'est un métier très très vieux dans le monde.
Tout à fait, mais après c'est plus compliqué que ça. C'est quelqu'un qui... Il y a des bandes qui s'affrontent entre eux. C'est toute une période aussi de société qui est très, très importante. Et c'est vraiment... Ils avaient des noms, voilà. Les Apaches, c'était des gars du 18e, hein, ouais, de Paris. Voilà, donc c'est des histoires qu'il est bon d'aller revoir, qui apportent à la fois des sensations, des perceptions aussi du temps, et puis de la connaissance.
Il y a une mise en perspective, parce que j'imagine que quand vous faites, je ne l'ai pas vu celui-ci, quand vous montrez des preuves de l'existence de la vie sur Mars, avec les papiers d'époque, où on y croyait dur comme fer, vous expliquez quand même que non, il n'y a personne. Je veux dire, ce n'est pas une série complotiste que vous faites là.
Ah bah nous, c'est pas du tout notre registre, pour le coup, c'est vraiment pas ça qu'on fait. Non, non, ce qu'on essaie toujours de dire, c'est qu'il y a un moment donné où il y a eu des interrogations. Je parlais de la robotique tout à l'heure, et de toutes les questions du progrès humain qui peut y avoir. Mmh. Et bien sur la vie sur Mars, c'est pas, il y a eu des tas et des tas de fantasmes, des tas de théories, d'idées qui ont été véhiculées. C'est comment représenter de ce moment d'histoire qui permet en fait de aujourd'hui avoir un contrepoint avec ce qu'on imagine nous, ouais, sur tout ce qui est la crise qu'on vient de traverser. Nous, on a fait énormément de papiers autour de des anciennes épidémies qui permet en fait de repositionner, de comprendre, d'injecter du temps long dans la réflexion qu'on a aujourd'hui sur comment à l'époque on a vécu les épidémies, comment la presse en a parlé. Donc tout ça c'est très très intéressant, on trouve, nous, de le mettre en perspective.
Ouais, je me souviens que quand j'étais petit, pour dire que c'est pas l'apanage du 19e ou du 18e que de raconter des n'importe quoi, quand j'étais petit, je me souviens que jamais on imaginait que le téléphone portable allait exister, mais on disait qu'en l'an 2000, chacun aurait son avion. On va faire un saut au 18e siècle avec l'histoire des parcs d'attractions parisiens. C'est présenté par Doc Géraud et Science de Comptoir, extrait.
Tout commence en 1730. Louis XV règne sur la France et le premier parc de loisirs de France s'appelle Tivoli.
Il y avait quoi comme attraction ?
Alors, la technologie étant ce qu'elle était, c'est surtout un lieu de libertinage. Mais progressivement, on y installe des manèges, des montagnes russes, une grande roue et puis on tire des feux d'artifice.
Ah ouais, libertinage et grande roue, fallait y penser.
Il y a aussi le fameux tir aux pigeons qui à l'époque se faisait sur de vrais pigeons. En 10 ans, ils en tuent plus de 300 000. Puis le parc ferme en 1842.
Mais non, pauvre pigeon !
Attends, c'est pas tout. On apprenait jusqu'ici aux enfants les 7 merveilles du monde. Il en est maintenant une 8e. La brillante inauguration de Luna Park, la ville enchantée élevée à la porte Maillot par les célèbres managers Henri Hill et Gaston Acoun, nous l'a prouvé hier soir. Balade en gondole, descente de rapide, palais des folies, ouvert tous les jours de 13h à minuit. Je crois qu'on tient là l'origine des gros stuff.
D'où l'expression « un tour de manège à double sens ». Étienne Manchette, est-ce que cette série sur YouTube, c'est une manière pour vous de vous faire connaître et d'inciter les gens à s'abonner à Retro News ?
Alors nous, pour nous, c'est avant tout un travail de vulgarisation, de aussi trouver des formes narratives. Nous, les collections, c'est une espèce de gigantesque masse d'informations et de contenu. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait avec cette masse-là ? Nous, on essaye de travailler toujours à des formes narratives. Or, les youtubeurs, tous ceux avec qui on travaillé, sont naturellement venus chercher en fait dans les archives de la bibliothèque. Et c'est là-dessus que nous, après, on crée en fait des dispositifs avec eux. Et bien sûr, c'est nous faire connaître, mais c'est aussi vulgariser la connaissance et les collections de la bibliothèque, qui est la vocation native de Retro News.
Combien coûte un abonnement à Retro News et combien d'abonnés avez-vous pour l'instant ?
Alors, il y a deux types d'abonnements. Alors, c'est un peu du détail. Il y a l'abonnement mensuel et l'abonnement annuel pour les passionnés. Et puis, sur tous les inscrits, tous les gens qui peuvent aller, on a un peu plus de 40 000 personnes qui sont inscrites et qui reçoivent tous les jours nos newsletters. Et puis après, il y a des gens qui s'abonnent. On a énormément d'universités aussi qui s'abonnent. Donc, on a des universités américaines qui travaillent à ça parce qu'il y a les fonds, notamment les fonds de la Révolution française, qui sont un travail qu'on a mené. Et toute la presse sous la Révolution française est quelque chose de fascinant. C'est un moment historique très, très couvert où la presse de partisane joue un grand rôle. Et c'est des moments d'histoire comme ça. Donc il y a énormément d'universités et de particuliers, généalogistes ou pas, qui s'intéressent à ça. Et toute la partie magazine que nous on crée, ouais, tous les jours, c'est un magazine d'histoire. C'est aussi une manière de redécouvrir ce moment-là.
Je n'ai qu'un adjectif formidable. Merci beaucoup Étienne Manchette, responsable des partenariats et des contenus à la BNF. La série est à voir sur YouTube gratos et sur le compte Retro News BNF. Le prochain épisode demain sera consacré à Casque d'or, justement.
Notre prochaine invitée est Nawel Madani. Elle part ce soir en terre inconnue sur France 2 et vient nous en parler dans Culture Média. On l'accueille dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Blondel.
Et pour Culture Média, Philippe, on est ravis d'accueillir Nawel Madani.
Bonjour Nawel Madani.
Comment allez-vous?
Mais je vais très bien, mais c'est à moi de vous poser cette question. Comment allez-vous vous-même, Nawel?
Ben, un peu anxieuse quand même, hein. C'est le grand soir, j'ai l'impression de me marier.
C'est vrai. Humoriste, vous n'avez pas peur des mots, ça s'entend. Vous êtes un cas rare dans le paysage humoristique féminin. Vous étiez fait connaître au Jamel Comedy Club, puis sur Canal, avant de voler de vos propres ailes, notamment avec le spectacle C'est moi la plus belge. Et ce soir, vous êtes à l'affiche, non pas de vos épousailles, mais ça sera sur France 2, un numéro inédit de Rendez-vous en Terre Inconnue, l'émission créée par Frédéric Lopez. Désormais, c'est présenté par Raphaël de Casabianca. Vous avez passé du temps en Mongolie, mais c'est très très grand la Mongolie. La moitié de la population vit dans la capitale Oulan-Bator. Pour le reste, c'est le pays le moins dense du monde. Est-ce que vous pouvez situer l'endroit dans lequel vous êtes allé?
Le site.
Ouais. C'est quoi? Ça s'appelle comment? Ça ressemble à quoi?
Bayan-Kongor.
Ouais.
Dans la campagne de Bayan-Kongor. C'est une petite ville, mais on a roulé, je crois, 9 heures et on est arrivé quelque part, je ne sais où, entouré de bêtes. Pas loin de Bayan-Kongor.
C'est absolument magnifique. Il faut décrire le paysage, c'est que vous êtes en altitude.
Complètement, 3000 mètres d'altitude. Il peut faire moins 35 degrés. Et on traverse la steppe en dos de yak ou de hanik.
Il y a des images, les images finales, par exemple, il y a une transhumance avec des animaux. Les images finales sont d'une beauté absolument à couper le souffle. Et même la petite fille de la famille, qui ne devrait pas être surprise parce que c'est son univers depuis la naissance, elle est totalement bluffée. Racontez, qui sont les gens que vous avez rencontrés? Ils font quoi?
Ce sont des éleveurs. Ils élèvent ils sont une famille beaucoup de filles qui essayent de rester quand même proches de leur tradition, mais ils ont quand même des rêves d'émancipation. Elles veulent devenir médecins, chirurgiennes, mais tout en restant proches de ce que leurs parents leur ont inculqué. Et elles sont un peu dans un paradoxe, c'est fou. Ils ont une approche assez spéciale de la modernité.
Ouais.
Et ils sont loin de tout et en même temps très connectés.
Ouais, ils font des transferts d'argent avec leur portable. C'est juste complètement dingue.
Exactement.
Il y a plein de gens ici qui ne sont pas capables de le faire, à commencer par moi-même. Quand la famille vous demande votre profession, vous répondez, vous faites des blagues sur scène. Alors je ne sais pas si le mot humoriste existe dans leur langue, mais ce qui est dingue, c'est la réponse du père. Il vous dit « J'avais deviné car tu nous fais beaucoup rire ».
Ben, je pense que le fait de les rencontrer et ils sont très souriants, je sais pas si vous avez vu, mais ils sont tout le temps, même quand ils racontent leurs épreuves, ils ont toujours le sourire un sourire aux lèvres. Donc moi je me suis tout de suite dit, il faut pas que je me plains, quoi. Donc j'essayais à chaque fois de désamorcer avec des blagues. Et puis voilà, je pense que ça se fait naturellement avec les grimaces, que comme on parle pas le même langage, on essaye de s'exprimer différemment. Et du coup, c'est passé par du mime.
Ouais.
Je pense que c'est là où j'ai découvert une nouvelle casquette.
Alors, on ne peut pas tout mimer, vous l'avez dit. Le climat, la température, il fait très, très froid. Et les toilettes, c'est dehors, la preuve.
J'ai fait pipi, il y a une chèvre qui est venue me dire bonjour. J'ai arrêté. Je me suis dit, c'est pas grave, on fera ça dans la semaine.
Donc, vous avez vraiment fait pipi dans la nature?
Mais pas que ça, c'était très compliqué. Il faut sortir le soir, on entend le souffle des animaux. Si on sort avec une petite lampe, ben on a les billes, les yeux des animaux qui vous observent. Et une grande peureuse, je faisais pipi tous les 3 jours. Ouais.
Et alors, blague à part, il y a un moment où vous avez tellement froid que vous êtes tombé dans les pommes. Et je l'ai appris ce matin en lisant Le Parisien, papier de Benoît d'Aragon. Après une randonnée à cheval, vous ne sentiez plus vos pieds. Vous avez eu peur parfois vraiment pour vous-même, pour votre santé?
Oui, et je pense qu'ils sont complètement fous dans cette production. Vraiment, mais vraiment, quoi. On fait des trucs et je me dis, mais on a dos de Rani qui est. C'est des animaux quand même sauvages et on est, de temps en temps, ils ont des mouvements brusques. Moi, j'ai vu les petites tomber à cheval. Enfin, on n'a aucune sécurité.
Ouais.
C'est toi et ta chance. Et je me suis dit, bah, purée, c'est vraiment. Oui, on y va, quoi. Et c'est ce qui m'a plu, je crois, le plus.
Ouais.
Je me suis dit, allez, c'est une vraie aventure, c'est pas scénarisé. on vit à leur rythme et c'est clair qu'on se rend compte de leurs enjeux.
Ouais.
Et du danger au quotidien. Alors, s'ils se blessent, c'est fini, quoi. Il ne peut plus aller nourrir ses bêtes, chauffer la yourte et tout s'arrête.
Ah oui, le premier hôpital, il a des heures et des heures de route. Et alors, juste pour vous donner raison et dire à quel point ils sont un peu dingues dans cette prod, ça, ils ne vous l'ont pas dit. L'équipe de tournage, pour se préparer au tournage, ils se sont entraînés pendant une semaine dans une chambre froide, dans les Yvelines, des frigos. C'est juste des grands malades. Alors, il y a dans ce rendez-vous en terre inconnue tous les invariants de l'émission, notamment les larmes. Habituellement, ça pleure beaucoup à la fin, quand il s'agit de se séparer. Mais là, Nawel Badani, ça commence dès le début, dès l'avion.
C'est pourquoi l'évocation de la Mongolie, ça vous a fait un choc émotionnel comme ça?
Parce que avec mon père, quand on se parle et tout, c'est des voyages qu'il aurait voulu faire, tu vois. Comme il est fragile maintenant... Au niveau de sa santé, je sais que c'est des pays qu'il verra jamais, tu vois. Alors, je vais les voir à sa place. La Mongolie, papa.
Au milieu de l'émission, quand la famille parle des décès des membres de la famille dont il y a la photo, comme des ex-voto, vous n'arrivez même plus à parler. Puis à la fin de l'émission, évidemment, au moment de se dire au revoir, quand vous vous adressez au père de famille.
C'est un homme courageux, un papa exemplaire. Tu es un exemple pour moi. Et je sais que ton père de là-haut, il est fier de toi.
Nawel Madani, qu'on va retrouver en terre inconnue et dans Culture Média dans quelques instants.
Oui, elle est partie en terre inconnue en Mongolie pendant 20 jours. Une aventure incroyable qu'elle nous raconte ce matin dans Culture Média. C'est Nawel Madani qui est notre invitée. On la retrouve dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Ce soir sur France 2, à 21h, vous partirez en terre inconnue avec Nawel Madani, direction la Mongolie. Une aventure qu'elle a vécue à 2000% et qu'elle nous raconte ce matin dans Culture Média, Philippe.
Oui, vous l'avez vécue très très fort cette aventure, Nawel Madani. On a entendu les extraits, il y a eu beaucoup de larmes.
Oui, beaucoup, parce que déjà, je suis tombée sur une famille vraiment... moi qui suis en manque des miens, parce que bon, je suis installée à Paris, je les vois très peu. À chaque fois que je reviens à la maison, je vois que mes parents, je constate qu'ils vieillissent et que je ne profite pas assez d'eux. Et cette ambiance familiale qui m'a rappelé ma jeunesse, cette unité, ils forment vraiment une unité. Et puis ils sont vraiment pour moi un exemple parce qu'ils sont une force. Il n'est rien sans elle, elle n'est rien sans lui. Ce couple est juste extraordinaire. Et c'est vrai que c'était une leçon de vie au quotidien. Et pour moi, qui suis très proche des miens, ça m'a cette yourte remplie d'amour m'a vraiment recadrée. Et aujourd'hui, j'essaye d'appliquer un petit peu ce qu'ils m'ont inculqué durant ce séjour.
Ah oui ?
C'est-à-dire que même si on est focus sur ces challenges, il faut rester concentré sur l'autre.
Ouais.
Et moi, avec ma tournée, mon film et tout, j'ai laissé un peu sur le bord de l'autoroute quelques personnes qui avaient peut-être besoin de moi en plus d'attention. Et aujourd'hui, malgré mes challenges, j'essaie de rester concentré.
Rendez-vous en terre inconnue, c'est ce soir sur France 2. Il y a une coquetterie dans cette émission. Elle existait déjà quand c'était Frédéric Lopez qui présentait. C'est encore le cas avec Raphaël de Casabianca. Contrairement aux usages dans la profession, parce que dans la profession, souvent au bout d'un certain temps, on se tutoie. L'animateur persiste à vous voyez la personnalité invitée. Mais vous, Nawel Madani, on sent que vous accrochez pas avec le truc. Vous avez envie de davantage de simplicité. Écoutez ce dialogue un peu surréaliste, vous tue.
Ça fait des semaines que vous savez que vous allez partir.
Non, mais voilà, oui, je sais pas où je vais, je sais pas avec. Enfin, voilà. Je te connais pas très très bien, quoi. Je pars quand même avec toi 20 jours.
On va prendre
même si t'as des yeux tout bleus, tout gentils, mais je sais pas où tu m'emmènes.
Mais vous sentez prête quand même?
Je me sens pas prête. J'ai surtout envie que tu me dises où on va très très vite.
Non, moi, tout ce que je peux vous dire, il y a une famille qui vous attend quelque part dans le monde.
Mais c'est étrange, je vous l'ai pas dit, mais vas-y, on se tutoie.
Je lui ai dit 100 fois et je le tutoyais.
Ouais.
Il n'en pouvait plus, il me tutoyait tout le temps, on rigolait. Mais il m'a dit, écoute, Nawel, c'est comme ça depuis le début, on ne va pas changer parce que c'est toi. Ouais. Il m'a dit, mais attends, en plus, moi, je suis très tactile, je lui fais des bisous tout le temps. Enfin, on le voit en plus.
Ouais.
Je suis assez câline et tout. Donc, je l'attrapais, je lui faisais des hugs. Et après, il me dit, vous vous sentez bien? Je lui dis, mais arrête, on a dormi ensemble. Tu m'as surveillé quand je faisais pipi, tu me vois encore, rappelle.
Ah, ça, c'est pas dans l'image. On ne voit pas qu'il vous surveille quand vous faites pipi.
Ah ouais, il m'accompagnait pour faire pipi, il faisait le garde du corps. Je dis, impossible que j'aille faire pipi comme ça. On ne sait jamais, je me fais attaquer par un loup, il va me mordre la fesse, comment je vais faire ? Tu viens surveiller ça. Mais je crois qu'il avait encore plus peur que moi.
Alors j'ai repéré une nouveauté dans l'émission, qu'on regarde évidemment depuis très longtemps. On dirait que c'est vous qui faites la voix off.
Ah bon ?
Mais vous avez fait une voix off ou pas ? Ou alors c'est une fille qui a exactement la même voix que vous ? Est-ce que c'est vous qui avez fait une voix off ou pas du tout ?
Non, je pense que c'est des bouts de moi, des bouts de ma voix.
Ouais.
Ils ont superposé, je pense. J'ai pas fait de voix off.
D'accord.
J'ai fait un peu de post-synchro parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas audibles à cause du vent.
Ouais.
Mais j'ai pas posé de voix.
Vous avez vu l'émission terminée ou pas encore ?
Oui, je l'ai vu.
Et alors ?
Je l'ai vu parce qu'on a enregistré le prime, en fait, qui devait être un moment en direct. On a dû l'enregistrer samedi pour une diffusion. Ben, je savais pas qu'on pouvait pleurer en se regardant pleurer. Je me suis mise à pleurer à la fin.
Attendez, ça veut dire que le prime qui passe ce soir, on va vous revoir pleurer en vous voyant en train de pleurer.
Je crois aussi, en me regardant pleurer, en me regardant pleurer, voilà exactement. Non, mais en fait, on redécouvre, on est sur place,
ouais. On
découvre une famille. Mais moi, je découvre quand même le décor, ma transhumance, je les découvre grâce à ce reportage, grâce au drone.
Mmh.
Enfin, c'est extraordinaire. J'ai revécu mon voyage grâce à ces images. Donc oui, j'étais happée par les émotions.
Vraiment, et je le redis, les images sont absolument somptueuses. Et les images de drone, je l'ai appris ce matin dans le papier du Parisien, il faisait tellement froid, les batteries perdaient tellement leur puissance rapidement qu'ils pouvaient tourner seulement 2 minutes. J'en viens, Naël Madani, à votre métier d'humoriste, de comédienne. Comment vous avez vécu ces 2 mois de confinement ? Vous nous avez déjà donné une toute petite partie de la réponse. Vous n'étiez pas en Belgique, mais vous étiez en France. Comment vous avez vécu ce confinement ? Qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, ce confinement a été sportif pour moi.
Ah.
J'ai essayé de faire un challenge où je me faisais coacher tous les jours par un sportif de haut niveau via les réseaux sociaux. Donc j'ai voulu vraiment faire bénéficier les gens qui étaient enfermés chez eux, pas possible d'aller à la salle de sport ou se payer un coach. Donc j'ai eu des anciens boxeurs, des...
Ah, on est en train de perdre Naël Madani, qui est en train de dire qu'elle avait trouvé un coach sportif pour se coacher. Vous avez fait quoi, vous, pendant le confinement, Céline Dacosta ?
J'ai regardé Naël Madani, figurez-vous, qui faisait des lives avec sa sœur, qui est médecin également, et c'était très très bien.
C'est pas vrai, ouais, racontez, vraiment. Qu'est-ce qu'elle faisait ?
Alors, je peux pas dire exactement ce live-là, parce que ça parlait de flatulence. Voilà. Alors, je ne sais pas si Naël nous entend, et si elle peut revenir sur ce sujet, si vraiment.
Elle a fait un live là-dessus, vous l'avez regardé.
Oui, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant.
Ouais. Ah, mais c'est dingue. On vous a perdu, Naël. On vous a retrouvé pendant ce temps-là. Mais Céline Dacosta me dit que vous avez fait des lives sur les flatulences.
Avec votre sœur, qui est médecin, je suis tombée dessus, j'ai regardé, j'ai trouvé ça très intéressant.
Non, mais c'est vrai que, pour vous dire la vérité, j'avais des problèmes de flatulence.
Oh.
Et il m'arrivait une fois, où on était en réunion, il n'y avait que des mecs.
Ouais.
Et j'avais vraiment mal au ventre. Et je me suis dit, quand même, si j'en lâche une, on ne va jamais se dire que c'est Naël Madani. Et du coup, je suis rentrée à la maison, j'ai raconté cette histoire à ma soeur, elle m'a dit, écoute, tu dois avoir un problème, et on a réglé ce problème-là, et aujourd'hui, je ne lâche plus de caisse.
C'était vraiment très intéressant, vraiment, je le dis sans plaisanter, au début, je me suis dit, bon, c'est marrant et tout, mais non, il y avait vraiment un fond hyper intéressant.
Le fond, le mot est bien choisi. Si on m'avait dit qu'un jour, on allait parler de ça dans Culture Média, je n'en reviens pas. Merci les connexions qui se coupent, merci beaucoup Naël Madani d'avoir été avec nous, avec cette franchise. Vous avez dit, auditeur, auditrice, que Naël Madani ne ressemblait à personne. La preuve, ce live, quand même, c'est quelque chose. Je rappelle, rendez-vous en terre inconnue. C'est en Mongolie et c'est ce soir sur France 2 à 21h. Merci encore d'avoir été avec nous, Naël.
Et Culture Média, ça continue.
Mais oui, après le rappel des titres de 10h, place à la culture avec l'écrivain Guillaume Musso. Il a été l'auteur le plus lu pendant le confinement. Il sort aujourd'hui son nouveau livre, La vie est un roman, best-seller, déjà annoncé, tiré à 400 000 exemplaires. Et puis dans les indispensables, littérature toujours, vous savez, cette semaine, Nicolas Caro nous présente chaque jour un livre en compétition pour le prix Europe 1 GMF. Aujourd'hui, c'est Le Théâtre des Nuits, c'est le titre. Et puis, des idées de recettes faciles à faire pour emporter au bureau. Ben oui, parce que sans cantine ni restaurant, il faut bien s'adapter. Ce sera avec Marion Sauveur. Et puis, il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Il y en a un riche programme. Et toute la semaine, on vous l'a dit, on va vous proposer en fin d'émission le meilleur des portraits inattendus d'Hélène Manarino. Aujourd'hui, un petit jeune qu'on aide, le comédien Kad Merad, juste après ça.